Radio Kapi. Oh, Kapi.
Votre journal de midi, heure de Kinshasa, Babel Pongo Massimango, micro, madame, monsieur, bonjour. Le Sénat vient d'approuver 3 accords internationaux, c'est notamment un partenariat économique avec les Émirats Arabes Unis, l'adhésion de la RDC à Shelter Afrique et d'un nouvel accord international sur le cacao. Des précisions dans ce journal. Nous serons en Kivu avec ce rapport semestriel que vient de publier le réseau pour les droits de l'homme Rido. Le rapport note plus de 40 cas de meurtre et d'assassinat au cours des 6 premiers mois de cette année à Butembo et ses environs. Ce réseau appelle les autorités à renforcer la protection des civils et la lutte contre l'impunité. La saisine de la Cour internationale de justice par la RDC contre le Rwanda. Il en sera question avec notre invité, Marius Mubalama, est analyste sociopolitique et président national du mouvement Congo des valeurs. Madame, messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Attirer davantage d'investissements, développer le logement social et améliorer les revenus des producteurs du cacao, ce sont les objectifs de 3 accords internationaux approuvés hier vendredi par le Sénat. Il s'agit notamment d'un partenariat économique avec les Émirats Arabes Unis, de l'adhésion de la RDC à Shelter Afrique et d'un nouvel accord international sur le cacao. Que prévoit concrètement ces textes? Élément de réponse avec Rassam Zati, notre permanent au Parlement.
Le premier texte porte sur le partenariat économique global conclu entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Il vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et à attirer davantage d'investissements dans plusieurs secteurs clés, notamment les infrastructures, l'énergie, les mines, l'agro-industrie, les télécommunications et les services financiers. Selon le gouvernement, cet accord devrait également favoriser le transfert des technologies et contribuer à la création d'emplois. Le deuxième texte autorise l'adhésion de la RDC à Shelter Afrique, une institution financière panafricaine spécialisée dans le financement du logement et de l'immobilier. L'objectif est de mobiliser de nouvelles ressources pour soutenir le logement social et financer des projets immobiliers dans le pays. Enfin, le Sénat a aussi approuvé le nouvel accord international sur le cacao. Ce texte vise à renforcer la coopération entre les pays producteurs, à stabiliser le marché mondial du cacao et à améliorer les revenus des cultivateurs. Il encourage également la transformation locale de cette matière première afin de créer davantage de valeurs ajoutées en RDC.
Au nord qui vous trouvez de l'eau potable devient un véritable parcours de combattants dans la commune rurale de Lubero. Plus de 100 000 habitants auxquels s'ajoutent des milliers de déplacés sont confrontés depuis plusieurs mois à une pénurie d'eau, conséquence d'un réseau d'adduction devenu insuffisant face à la croissance de la population. Cette situation expose les habitants à des risques sanitaires et complique davantage leur quotidien. Martial Papimoukeba nous explique ce qu'il en est.
La commune rurale de Lubero est alimentée en eau potable par 6 mini-réseaux d'adduction dont les captages se trouvent dans les localités voisines. Mais ces infrastructures, construites il y a près de 40 ans, ne répondent plus aux besoins actuels. Plusieurs bornes et fontaines restées à sec, notamment aux heures de forte consommation, obligea de nombreux ménages à passer plusieurs jours sans eau. Le directeur du réseau des adductions d'eau potable de Lubero, Mumberi Sadiki Kahunde, évoque un autre réseau, la forte croissance démographique.
L'eau ne couvre pas toutes les cellules de la commune à cause du délabrement très avancé des captages, même aussi des bornes fontaines de l'addiction qui datent de 1988. C'est la coopération avec Canada qui avait financé cette addiction en 1988. La cité de Lubero était habitée par 22 000 habitants. À nos jours, la population est passée à 102 000.
La commune rurale de Lubero accueille également plusieurs milliers de personnes déplacées, ce qui accroît davantage les besoins en eau potable. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Kapi.
Crise d'eau potable aussi à Mbujima, au Kasaï oriental. Cela fait près de 4 jours que cela dure et plonge plusieurs quartiers dans une situation difficile et entraîne du coup le retour des bidons jaunes sur les artères. La régie des eaux dit avoir pris des dispositions pour réparer la grosse fuite d'eau intervenue sur les brides de la conduite d'eau localisée à la sortie de la zone moyenne à Bakwa Kapanga, c'est dans la commune de Lamouya. Esther Dalafina pour le reportage.
Le quartier le plus touché se trouve dans la commune de Diolou, une partie de Dibindi et quelques quartiers de la commune de Lamouya. Les habitants vivent au rythme des bidons jaunes qui ont réinvesti les grandes artères dès le quatrième jour de la crise. Nicole Odia, ménagère, raconte les difficultés quotidiennes que cette rupture de desserte impose aux familles.
Depuis le lundi, il n'y a pas de l'eau chez nous. On va très loin pour puiser de l'eau. Donc à Djanga, vers l'hôpital presbytérien, on travaille avec des bidons. Nous n'avons pas les moyens d'aller acheter même 5, 6 bidons. C'est très cher.
La rareté de l'eau entraîne également une flambée de prix, comme le déplore Thérèse Tchala.
Les gens de Yambi, ils montent, ils descendent pour chercher de l'eau. Moi aussi, je n'ai pas de l'eau à la maison. À la maison, il n'y a rien. Les bidons, certains vendent à 800, d'autres 1000 francs, d'autres 1500. Parce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher de l'eau. Tu vas aller chercher où?
Dans un communiqué reçu ce vendredi, la régie des eaux indique avoir engagé des travaux pour réparer une importante fuite sur le bride de la conduite des N500 à la sortie de la zone moyenne de Bakwakapanga. L'entreprise annonce que la fourniture d'eau devrait reprendre une fois l'intervention achevée. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, meurtre, assassinat et justice populaire, c'est le tableau préoccupant de la situation sécuritaire à Butembo et dans ses environs que dresse le réseau pour les droits de l'homme Rido. Dans son rapport Simisquel publié hier vendredi, cette organisation basée à Butembo affirme avoir documenté plus de 40 cas de meurtre et d'assassinat au cours de 6 premiers mois de cette année. Elle dénonce la persistance de l'insécurité et appelle les autorités à renforcer la protection des civils ainsi que la lutte contre l'impunité. Marcel Papimoukeba nous donne plus de précisions sur ce rapport.
Dans son rapport semestriel, les rideaux indiquent avoir documenté plus de 40 cas de meurtres, d'assassinats et de la justice populaire entre janvier et juin 2026 dans la ville de Butembo et les territoires voisins de Beni et de Lubero. L'organisation révèle que la commune de Bulengera est la plus touchée avec 10 cas enregistrés au cours de cette période. Face à cette situation, le coordonnateur du rideau, Maître Muhindo Wasivinywa, appelle les autorités à renforcer les enquêtes et à poursuivre les auteurs de ces crimes.
Pour les 6 premiers mois de cette année 2026, le Rédo a documenté plus de 41 cas de meurtres et assassinats à ville de Butembo et environ. La commune Bulengera a enregistré plus de cas. 10. Le Rédo recommande aux services de sécurité à plus de vigilance afin de prévenir le mal contre la population, aux instances judiciaires, civiles et militaires de mener les enquêtes sérieuses et ouvrir des dossiers contre les auteurs.
Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu la réaction des autorités de Butembo à propos de ces rapports. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et en Ituri, des acteurs politiques et la société civile du territoire d'Arou dénoncent des incursions répétées d'hommes armés sud-soudanais dans plusieurs villages de la chefferie des Kakwa. Au cours de 2 derniers mois, ils affirment avoir enregistré plus d'une 20aine de mouvements de ce genre, ce qui crée la psychose parmi la population. La dernière incursion est intervenue mardi dernier, le 30 juin. Une 10aine de civils et des vaches ont été emmenés de force par ces hommes armés sud-soudanais. Des acteurs politiques et de la société civile plaide pour le renforcement des effectifs militaires le long de la limite frontalière entre les deux pays. Martial Kizavia Mungu nous en dit plus.
Parmi les villages de la chefferie des Kakwa ciblés par ces hommes armés figurent notamment Agroba, Kole, Mulengere ou encore Liga. Selon des sources coutumières locales, des hommes armés tantôt identifiés aux militaires de l'armée du Soudan du Sud, tantôt des rebelles, puis des biens de la population dont des vaches et des produits champêtres. Le 30 juin dernier, dans les villages de Liga, des militaires de l'armée sud-soudanaise ont tabassé des civils et pris en otage une 10aine d'autres pour transporter les butins, indiquent des sources locales. Des acteurs locaux, politiques et de la société civile d'Arou se disent fortement préoccupés par cette situation répétitive qui, selon eux, crée la psychose parmi la population. L'un d'eux, le député provincial Dieudonné Tabani.
La deuxième des choses, il y a aussi un problème de la démarcation de la limite de la frontière entre les Soudan du Sud et la RDC. Il faut être suivi de la part de notre gouvernement pour que ces Congolais soient libérés. On ne peut pas quand même récupérer des Congolais de force pour aller servir dans un autre pays.
L'administrateur policier du territoire d'Arou contacté promet de se prononcer incessamment sur cette situation. Bounia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Une maladie non encore identifiée suscite l'inquiétude dans le secteur de Bapéré, c'est dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Selon la société civile locale, au moins 9 personnes sont décédées en l'espace de 2 semaines à Mangoumo, un carré minier situé à environ 250 km de Butembo. Les victimes présentent notamment une diarrhée avant leur décès. Son président Samuel Mahini appelle les autorités sanitaires à mener des investigations afin d'identifier cette maladie et d'éviter une éventuelle propagation. Il explique la situation au téléphone de Martial Papimoukeba.
Aujourd'hui, on parle de 9 décès jusque-là. Et on signale, bien sûr, aussi d'autres malades qui sont agonissants. Ils présentent une diarrhée et c'est ce qui conduit, bien sûr, à sa mort. Les victimes sont recours, bien sûr, à des traitements traditionnels. Et ça, c'est déjà aussi un danger. C'est pourquoi la société civile lance une fois encore ses alertes. Et surtout, les villages se trouvent à une distance d'au moins 4 jours, 5 jours de marche. Il y a la population qui est en train de quitter pour venir se réfugier soit à Mangurejipa, soit à Ndiapanda, soit monter vers Lubero. Oh, en tout cas, les autorités sont appelées à prendre des mesures qui sont nécessaires en fait de voir comment détecter si cette maladie mais ces décès sont liés à quel type d'épidémie, en fait de sauver les vies de cette paisible population et qu'on ne puisse pas enregistrer plusieurs cas de contamination au sein de la population.
Un retour Nord Kivu, des milliers d'élèves de l'école primaire et de l'Institut Mouniki à Walikale, ainsi que leurs parents ont été sensibilisés aux mesures de prévention contre Ebola lors de la clôture de l'année scolaire. L'activité organisée vendredi par l'ONG Femmes Unies pour le développement endogène et intégral FUDEI visait à promouvoir le respect des gestes préventifs pendant les vacances. Des kits sanitaires ont également été distribués aux bénéficiaires. Les détails avec Bernardine Diambo.
Environ 300 personnes ont pris part à la cérémonie de proclamation de résultats de fin d'année organisée dans l'enceinte de l'EP et de l'Institut Mouniki. Parmi elles figuraient des enseignants, des élèves, des parents ainsi que des membres de la communauté locale. Selon Rachel Mouloulou, coordonnatrice de la FIDEI, cette affluence a constitué une occasion privilégiée pour sensibiliser le public aux mesures de prévention contre Ebola.
Nous avons sensibilisé les élèves, les écoliers, les enseignants, les parents sur les danger de la maladie à virus Ebola.
Tout en saluant cette initiative, le directeur de l'établissement Dani Wamungu Stéphane a promis de faire bon usage des kits sanitaires remis à l'école.
Les kits écoles FIDEI viennent de nous doter tout à l'heure. Nous allons les garder jalousement. Ce sont des matériels qu'on doit utiliser pour la lutte contre la maladie à virus Ebola.
Les responsables scolaires ont par ailleurs invité les parents à promouvoir les efforts de sensibilisation à domicile. Il les a exhortés à veiller au respect des mesures barrières pendant les vacances afin que les acquis obtenus à l'école ne soient pas perdus. De leur côté, les parents se sont engagés à promouvoir et à faire respecter les mesures de prévention au sein de leur ménage.
L'année scolaire 2025-2026 est clôturée le 2 juillet. Les enfants se reposent pendant 2 mois afin de renouveler leur énergie avant la reprise des cours au mois de septembre prochain. Au Maniema, le ministre provincial de l'Éducation saisit l'occasion pour appeler les parents à bien jouer leur rôle d'encadreur en cette période. Mira Marungu Ouseni insiste sur le fait que les enfants doivent être bien accompagnés en ce moment de vacances, surtout les filles, pour ne pas être déroutées. Elle est ici au micro de Florence Kizalunga.
Je tiens d'abord à féliciter tous les élèves de la province du Maniema pour tout le travail abattu durant toute l'année scolaire 2025-2026. Alors, pour tous les parents des élèves, je les félicite encore une fois de plus pour l'encadrement et l'accompagnement de nos enfants. Et je demande à ces parents de bien continuer à accompagner les enfants pendant surtout cette période des vacances. La période des vacances, elle est longue, elle prend presque 2 mois et alors c'est un devoir aux parents de bien encadrer les enfants pendant cette période pour que les enfants ne puissent pas se méconduire. Surtout, je insiste pour les élèves filles. C'est pendant toujours cette période souvent que les enfants filles se méconduisent et ils se laissent emporter par n'importe quel mouvement. Surtout avec les mouvements ici chez nous au Maniema où il y a toujours le mariage précoce. Là, je tiens à les encourager pour qu'ils puissent vraiment bien les encadrer pendant cette période de vacances pour que les 2 mois ici que les enfants vont passer à la maison, que ça soit bénéfique à nos enfants, que ça soit bénéfique à l'État congolais qui attend de ces enfants-là les bons fruits.
Place à présent la page internationale.
Actualité internationale.
En Iran, les funérailles officielles de l'Ayatollah Ali Khamenei ont démarré aujourd'hui, samedi, à Téhéran. C'est pour ces jours, les autorités attendent entre 15 et 20 millions de personnes, parmi lesquelles les représentants d'environ 30 pays, mais aucun dirigeant européen n'est convié. Il sera inhumé le jeudi prochain, le 9 juillet, au sanctuaire de l'imam Reza. C'est dans la ville de Mashhad, son lieu de naissance. Pour rappel, le guide suprême iranien a été tué dans une attaque américano-iranienne. C'était le 28 février dernier. Il avait 86 ans.
L'invité.
La RDC a officiellement saisi la semaine dernière la Cour internationale de justice contre le Rwanda. À ce sujet, nous recevons dans ce journal Marius Mubalama, analyste sociopolitique, Mukwegiste, président national du mouvement Congo des valeurs, Koval. Étant Mukwegiste, sa prise de parole s'articule sur la responsabilité de violation de plusieurs conventions internationales engagées par Kinshasa le vendredi 27 juin. Marius Mubalama s'entretient avec Benjamin Mudumbi.
Monsieur Marius Mubalama, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes analyste et sociopolitique et proche de Denis Mukwege. Alors, la RDC a officiellement saisi la semaine dernière la Cour internationale de la justice contre les Rwandais. Quelle lecture faire de cette plainte de la RDC contre les Rwandais?
Nous saluons, c'est une bonne démarche parce que vous savez que à la Cour internationale de justice, qui est la haute juridiction des Nations Unies, règle le différend entre les États, le différend entre le pays. Et notre pays, nous avions connu des problèmes avec le Rwanda. Nous avions connu des crimes contre l'humanité. Nous avions connu les crimes des génocides. Il y a eu des violences sexuelles. Il y a eu des exactions extrajudiciaires. Il y a eu des déplacements majeurs des populations et tant d'autres abus. Et le Rwanda était un acteur majeur. Voyez? Et donc, il est nécessaire aujourd'hui que le Rwanda puisse répondre à toutes ces questions-là. Au niveau de la Cour internationale de justice, ce sont entre les États. Parce que le Rwanda n'agissait pas seul, il agissait à travers des personnes interposées, à travers des groupes armés, mais à travers aussi les forces de défense rwandaises à l'époque. Et jusqu'aujourd'hui, parce que le Rwanda est actif sur notre terrain, c'est dans notre pays, et depuis l'époque du AFDL, il a soutenu l'AFDL, il a soutenu le RCD, le CNDP, il est là aujourd'hui, les rapports l'attestent, avec le M23. C'est ainsi que nous disons que cette action auprès de la Cour internationale de justice doit être complétée par des actions aussi au niveau du pénal. Au-delà du Rwanda, il y a aussi des personnes individuelles. Ça veut dire que les responsabilités individuelles aussi doivent être rétablies pour que justice soit faite. C'est ainsi que nous, Mukwegistes, nous, au niveau de nos réflexions, nous avons toujours conseillé au gouvernement de travailler pour que la justice traditionnelle soit mise en place. Cela permettra à ce que, à travers les différents piliers de la justice traditionnelle, nous puissions connaître la vérité.
Par rapport à ça, vous pensez que la procédure n'a pas été respectée?
La procédure a été respectée, dans le sens que ça va opposer le gouvernement congolais contre le gouvernement rwandais. Ça, c'est un élément. Les responsabilités doivent être aussi établies au niveau pénal. Ça veut dire que des particuliers qui sont cités dans différents rapports, qui ont participé dans les crimes contre l'humanité, crimes contre les génocides, doivent être poursuivis parce qu'il faut les signaler. Maintenant, la CPI aussi, maintenant, peut être activée pour suivre des individus qui sont impliqués dans les crimes contre l'humanité, crimes de génocide et les crimes de guerre.
Puisque c'est entre les États, alors si le Rwanda aujourd'hui n'admet pas avoir commis ces crimes?
Ce n'est pas que le Rwanda ne va pas admettre d'avoir commis des crimes, parce que les rapports des Nations Unies existent qui engagent la responsabilité du Rwanda. Vous savez que dans notre pays, nous avions connu des crimes avant 2002, alors que la Cour pénale internationale a été créée en 2002. Ça veut dire que la Cour pénale était compétente de poursuivre certains crimes avant sa création. C'est ainsi que nous, à notre niveau, nous avions toujours plaidé à ce que qu'on puisse mettre en place un tribunal spécial pour la RDC. Ce tribunal-là pourra permettre à ce que les crimes, à partir de 1993 jusqu'en 2002, soient aussi poursuivis. La justice traditionnelle, à travers ces piliers, nous permet d'abord un décompte de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qui sont les acteurs? Qui sont les victimes? À côté de ça, le troisième pilier, c'est la réparation des victimes. C'est là que Fonarev, le Frivao intervient. Et le dernier pilier de la justice traditionnelle, c'est cette volonté, n'est-ce pas, d'avoir la garantie de non-répétition. Parce que nous avons des cas de récidive. Vous rappelez-vous, Thomas Lubanga a été condamné par la CPI à purger sa peine. Mais lorsqu'il est rentré au pays, il a eu encore des responsabilités étatiques. Il a été envoyé, n'est-ce pas, à Nice pour sensibiliser les groupes armés à quitter la forêt. Mais malheureusement, il s'est encore jeté dans la rébellion. Au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, on peut voter une loi qui veut que tous ceux qui ont participé dans des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, ne puissent plus faire partie de l'armée, tous ceux qui sont cités comme des acteurs politiques dans les crimes contre l'humanité, qui ne participent plus par exemple aux élections, qui ne puissent plus occuper des postes de responsabilité. Et donc, nous appelons à ce que la justice transitionnelle soit implémentée.
Selon l'histoire, la RDC avait déjà déposé en 2006 une action contre les Rwandais pour des crimes commis à l'est du pays et la Cour internationale de justice avait déjà statué. Quel est cette fois-ci l'espoir derrière cette procédure pénale contre le Rwanda?
Aujourd'hui, le rapport mapping est là. C'est là que j'appelle aussi le gouvernement à travailler avec la commission d'enquête sur les droits de l'homme dans le nord et les sites qui existent déjà, qui sont en cours. Donc, le gouvernement congolais a intérêt de collaborer avec cette commission-là afin qu'on puisse recueillir, n'est-ce pas, le preuve. Toute personne qui est impliquée, qui est citée dans les différents rapports, puisse répondre à ses habits et que la justice soit faite à travers aussi l'implémentation de la justice transitionnelle parce qu'on ne peut jamais penser construire la paix tout en marchant sur les attributs de la justice.
Marius Mubalama, je vous remercie.
Merci, messieurs les journalistes.
Marius Mubalama, analyste sociopolitique, Mukwege, président national du mouvement Congo des valeurs. Voilà qui met fin à ce journal. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté avec l'apport de Alain Groy à la technique ainsi que de Lievin Bouinga et Jean-Désiré Kanyama, la coordination, la supervision. Merci à vous qui venez de nous suivre. Bon après-midi et bon week-end.